archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. L'archive du jour nous emmène en Angola en 2001. Et vous entendrez que ce pays, riche en diamants et en hydrocarbures, a été lui aussi l'objet de convoitises. Cela nous rappelle l'actualité puisqu'il semble que le pétrole du Venezuela a été accaparé par la mafia locale et a laissé la population en dehors des profits qu'il génère. En Angola, les richesses étaient l'objet de la convoitise de deux camps qui s'affrontaient dans une guerre civile qui ne s'est terminée qu'en 2002. Notre archive fait un point de la situation en 2001. On l'écoute ensemble et on se retrouve dans 20 minutes pour faire le résumé de ce qui s'est passé depuis.
Fréquence Terre.
Bonjour à tous, avec vous Arnaud Jouve pour votre magazine, aujourd'hui consacré à l'Angola. Cette chanson intitulée Meninos du chanteur angolais Simmons parle des enfants réfugiés qui tentent de survivre à Luanda, la capitale de l'Angola. Le refrain dit « Ne détournez pas la face, ne nous appelez pas vagabonds, nous sommes les fils des balles de la guerre, les enfants de votre monde ». L'Angola de la guerre, de l'exil et de la souffrance est aussi celui du pétrole, du diamant et de l'opulence. Ces richesses attisent des luttes de pouvoir qui épuisent le peuple et transforment l'environnement en champ de douleur et de mort. Tout cela pour le plus grand bénéfice d'une minorité locale, de quelques multinationales étrangères et de leurs intermédiaires vendeurs de canons. Ces affaires nous rappellent une guerre oubliée que connaît bien Stephen Smith du journal Le Monde et Christine Messian, une sociologue de l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'Angola.
L'Angola, c'est un des plus grands pays d'Afrique australe, donc dans l'hémisphère sud du continent, qui a cette particularité d'être une vaste éponge pétrolière au large, c'est-à-dire sur la façade maritime, avec une exploitation offshore en très grande profondeur, une capitale qui est comme enkystée dans le continent, qui est un monde à part, assez pauvre, une des capitales les plus chères du monde, et un vaste hinterland qui, en gros, englobe à peu près une masse territoriale de l'ordre de la France et de la péninsule ibérique réunie, donc beaucoup, beaucoup, un très grand pays qui n'est habité que par 12 millions d'habitants et sur lequel on ne sait quasiment rien. L'arrière-pays est toujours en proie à la guerre et il est très difficile de voyager à l'intérieur de l'Angola, à tel point que notre image se réduit en fait à la fois à l'exploitation pétrolière, donc des images un peu industrielles, et à cette capitale avec ses favelas, avec ses quartiers pauvres et une partition qui là-bas est assez joliment ou tristement appelée hors goudron ou sur le goudron. Sur le goudron, on est encore dans la partie riche et entretenue, et les minuscules, et hors goudron, on est dans les quartiers comme Roque Santero. Il n'y a plus rien, vous êtes dans le sable et dans la terre racornie par le soleil, détrempée par les pluies assez fréquentes, avec un système de santé inexistant. Et c'est donc là, ces quartiers-là, qui sont infiltrés par la police politique, puisque la grande hantise du régime, c'est évidemment qu'un jour, toutes ces masses qui ont afflué de l'intérieur vers la capitale puisse se soulever et balayer toute cette façade maritime qui est dans cette merveilleuse baie de Luanda, comme ça, qui ourle la plage et le port et qui n'est que vraiment qu'une mince et ténue couche sur un océan de misère.
On a deux visions de l'Angola qui ne se recoupent pas, qui ne se touchent pas. Et il y a des gens qui vont en Angola, moi j'en ai rencontré, qui vont pour les vacances, parce qu'ils vont passer leurs vacances à Luanda. Ils vont dans des très belles maisons, avec des très belles piscines, avec des beaux gardes, des belles Mercedes. Et ils trouvent que c'est un endroit absolument génial, où il n'y a aucun problème, et où les gens sont charmants. Et puis, au niveau international, même par exemple, quand on parlait, on parle maintenant de cette Angola Gate qui implique des personnalités françaises, on a mis 15 jours pour dire qu'il s'agissait de l'Angola. C'est-à-dire que personne ne parle de l'Angola dans lequel il y a une des guerres les plus ravageuses qui sont en train de se faire. Et qu'au contraire, quand on lit sur l'Angola dans la plupart des gazettes, on en parle parce qu'on en parle du point de vue des pétroliers comme l'endroit le plus excitant au monde. Et pour les pétroliers, l'Angola, c'est un des trois endroits les plus excitants au monde. Alors le terme excitant est intéressant quand même quand on voit ce que ça veut dire pour les populations. Et donc on a un pays qui aurait dû être absolument riche et qui est à la fois pillé d'un côté avec la complicité internationale par un gouvernement qui n'a de compte à rendre à personne et qui est un État policier, même s'il se dit un État de droit maintenant. Et de l'autre côté, une rébellion qui, elle, vit aussi du pillage de ce pays, de la prédation de son diamant, et qui, avec ce diamant, alimente la guerre, qui encore maintenant, alors que tout le monde fait silence, et on parle respectueusement, mais le moins possible, on a des gens qui, tous les jours, sortent de la brousse où ils se sont réfugiés pour se rendre à un camp ou à un autre camp, plutôt le camp du gouvernement parce qu'il est le plus fort et que donc on peut peut-être trouver de l'aide humanitaire puisqu'il n'y a pas d'aide humanitaire de l'autre côté. Et il y a des gens qui arrivent, ils sont tout nus, ils ont mangé des fourmis, des trucs comme ça, ils n'ont plus aucune possibilité de survivre même là où ils sont. Et on appelle ces gens des ralliés à la cause de la démocratie et de la paix, alors que c'est des pauvres gens qui ne peuvent plus survivre entre les deux camps.
L'Angola est une ancienne colonie portugaise avec un début de guerre de l'indépendance à la fin des années 60, donc assez tardivement. Le reste du continent était déjà assez largement décolonisé et trois mouvements de libération qui obtiennent satisfaction en 75 au lendemain de la révolution des œillets au Portugal, donc une opportunité pour arracher l'indépendance, mais qui, au moment de l'indépendance même, donc en 75, commence immédiatement à se faire la guerre entre eux. Et il y a essentiellement le troisième ayant disparu. Aujourd'hui, le MPLA, qui était d'inspiration marxiste, qui est le mouvement qui a pris le pouvoir à Luanda et qui est toujours au pouvoir, dont le président Eduardo dos Santos est le successeur d'Agostinho Neto, le poète président, mais qui était plutôt quand même un homme de guerre aussi. Et de l'autre côté, l'UNITA, l'Union national pour l'indépendance totale de l'Angola, qui est le mouvement, dit-on souvent, des Ovimbundu, donc de la plus grande ethnie de l'intérieur, et dont le leader est Jonas Savimbi, un homme sans doute hors pair, pas seulement en Angola, mais à l'échelle du continent, polyglotte, extrêmement agile intellectuellement, mais qui, à force de réclusion au fin fond de ce pays, parce que c'est un homme qui mène la rébellion et le maquis depuis maintenant 30 ans, est devenu véritablement un despote de la jungle, en quelque sorte, et avec des éliminations de son entourage assez effroyables, et qui n'a cessé de relancer la guerre qui dure donc depuis l'indépendance du pays en 75, depuis un quart de siècle, et qui n'est pas la guerre malgré une volonté de paix, mais qui est vraiment la terre nourricière des deux appareils politico-militaires que sont d'un côté la MPLA et de l'autre l'UNITA. L'habitude, peut-être fatigué par une guerre qui ne veut se terminer, on est tenté de voir une guerre des matières premières où un côté se finance par les diamants, de l'autre par le pétrole. Ce n'est certainement pas énoncer la cause de la guerre, mais c'est vrai que ça saute aux yeux, et un pays qui gagne entre 3 et 5 milliards de dollars rien qu'avec son pétrole, évidemment on se dit pour 12 millions d'habitants, ça devrait permettre à tout le monde de bien vivre. Le fait est seulement que c'est la guerre qui permet à une partie de la couche dirigeante, c'est-à-dire le MPLA à l'exclusion de l'UNITA, mais qui se rattrape par les diamants, c'est la guerre qui justifie cette mainmise sur les matières premières. S'il n'y avait pas la guerre, il faudra partager. Or, on ne partage pas parce qu'on dit la patrie est en danger, l'autre est un diable, et il faut absolument mener à tout moment la Der des Der qui ne s'achève jamais. C'est ça la logique. Et donc, il y a une captation des différentes rentes minières ou donc pétrole ou diamant, et de chaque côté, on justifie par rapport à la grande masse miséreuse cette mainmise en disant que c'est pour mener la guerre. Une fois la guerre terminée, on fera autre chose, à savoir le développement. Et ce développement ne vient jamais.
Ce qui aurait fait peut-être sous d'autres cieux la richesse du pays et le bonheur du peuple, ici participe à la souffrance et au malheur des hommes. Christine Messian.
Un des drames pour la population de l'Angola, c'est précisément la richesse et le type de richesse des deux forces qui sont en train de se battre. Bon, principalement du côté du gouvernement. Le fait que le gouvernement ait du pétrole et que ce pétrole soit offshore fait que le gouvernement n'a pas besoin de la population pour produire des richesses, richesses qu'il va s'accaparer ou redistribuer. Il n'en a tout simplement pas besoin. Il n'y a besoin de personne pour produire le pétrole angolais. Et dans ce cadre-là, très tôt, le gouvernement a abandonné sa population. Effectivement, très tôt, parce que c'était difficile, parce que c'était déjà la guerre, il a laissé tomber la paysannerie. Et il a laissé tomber sa paysannerie parce qu'il pouvait nourrir les villes, ce qui est le problème des gouvernements, nourrir sa base sociale avec l'argent des importations du pétrole. Représenter peut-être, je crois que c'est important, l'immensité de la richesse pétrolière de l'Angola. Bon, je vais donner un chiffre parce qu'il m'a frappé il y a 15 jours. Le Tchad, il va y avoir du pétrole au Tchad, il va y avoir un pipeline. Le Tchad a perçu 25 millions de bonus des sociétés pétrolières, c'est ce qu'elles donnent pour entrer sur le marché. C'est de l'argent donné. Bon. Ils ont touché 25 millions de dollars. Et puis, il y a eu quand même un peu de bruit dans les journaux pour dire que c'était absolument scandaleux parce qu'ils avaient utilisé ces 25 millions de dollars pour acheter des armes, une partie de ces 25 millions de dollars. Bon, donc, ça a fait quand même un petit scandale parce qu'on ne leur a pas donné cet argent pour ça. Bon, je voudrais dire qu'en 1999, le gouvernement angolais a perçu 950 millions de dollars de bonus des sociétés pétrolières. Argent qui n'est pas rentré dans le budget et avec lequel, bien évidemment, d'une part, on a acheté des armes et d'autre part, on se l'est mis, on ne sait pas où. C'est de l'argent qui a disparu. Bon, donc on se rend compte de l'immensité de la richesse. Et dans ce cadre-là, il y a eu une dynamique, un engrenage de corruption dans le pouvoir angolais qu'on ne retrouve pas à d'autres niveaux ailleurs. Bon, il y a des fortunes qui sont plus importantes que les budgets d'État africains. De même que l'UNITA avec son diamant, qui est bien moins grand que les recettes du pétrole qui sont détournées, a pu, elle aussi, acheter toute une série d'hommes politiques africains. Donc on voit très bien le niveau auquel ça se passe. Et le niveau auquel ça se passe et l'avidité, cette course qui est tout à fait frénétique, ce capitalisme sauvage qui a été fait depuis que le régime est devenu capitaliste et démocratique, en tout cas institutionnellement, fait aussi que, par contre, on a absolument laissé tomber la population des villes, elle aussi, qui vit avec des salaires qui ne sont pas des salaires de misère, comme on disait chez nous il y a 20 ans, mais qui sont des salaires absolument insignifiants et qui sont pourtant essentiels pour la population. Le salaire minimum à l'heure actuelle est de 10 dollars. 10 dollars, ça veut dire le prix de 2 canettes de bière. Et en plus, ces salaires sont versés avec six mois de retard, quand ces 10 dollars n'en valent plus que 2 à cause de la dévalorisation de la monnaie. Donc on voit bien que les gens sont réduits à ne pas avoir de droits. Et ces gens, évidemment, d'abord, ils savent qu'ils n'ont pas le droit. Ils savent que face à eux, et ça des deux côtés de la guerre, ils ont un pouvoir qui est un pouvoir militarisé énormément, qui est un pouvoir policier qui n'a cessé de se renforcer, évidemment, avec la guerre. Et ces gens ont peur.
Criança em dela sabe, mas há muito que crescer.
Sur les 12 millions d'habitants estimés en Angola, car il n'y a pas eu de recensement depuis les années 70 à cause de la guerre, on estime que seul 1 million bénéficient des programmes d'aide. L'accès aux zones tenues par l'UNITA n'est pas ouverte aux ONG. Et l'aide déjà insuffisante dans les territoires contrôlés par le gouvernement est totalement inexistante dans les zones tenues par l'UNITA. On estime que les mouvements de déplacés représentent plus de 3 800 000 personnes, soit plus du tiers de toute la population du pays. Mais malgré la souffrance du peuple, victime des deux camps, les nations du monde ont pris position. Stephen Smith.
La situation, d'un point de vue international, a profondément changé après la chute du mur de Berlin. Au départ, il y avait donc le camp occidental qui soutenait l'UNITA et qui menait la guerre au gouvernement marxiste, qui lui était appuyé par la présence de 50 000 Cubains, les Barbudos, qui étaient là-bas, un peu en sous-traitance pour le camp socialiste ou communiste. Après la chute du mur de Berlin, l'UNITA a militairement gagné la guerre, mais n'a pas totalement écrasé le régime. Il y a eu un accord de paix et des élections. Et Jonas Savimbi pensait pouvoir joindre à la guerre qu'il avait militairement gagnée l'onction électorale qui était un peu dans l'air du temps après justement l'écroulement de l'Empire de l'Est où il fallait être démocrate et sanctifié par le vote des citoyens. Comme il a perdu l'élection, il a repris la guerre et la communauté internationale dès lors a essayé d'instaurer une sorte de partage du pouvoir négocié. Ça n'a pas marché non plus. Les Américains ont reconnu le gouvernement auparavant boudé comme étant marxiste. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'ONU a échoué dans sa médiation et tout le monde, sous la pression des pétroliers, donne raison de facto au gouvernement, diabolise l'UNITA comme étant d'horribles jusqu'au boutistes de la guerre, alors que les torts sont plutôt partagés. Et de ce fait, l'UNITA est criminalisée d'un côté. Et donc, il y a la lutte contre l'exploitation du diamant, le diamant sale, alors que le gouvernement est d'une certaine façon blanchi, sanctifié, puisque toutes les compagnies pétrolières, françaises, américaines et autres, préfèrent traiter avec ce gouvernement. Tous les réseaux sont bien en place et donc il y a une façon d'innocenter un régime qui ne s'occupe pas de sa population, puisqu'en face, il y a pire en quelque sorte.
Philippe Chabas, directeur France de l'ONG Handicap International, intervient depuis de nombreuses années en Angola pour lutter contre les mines antipersonnelles que les deux camps continuent de répandre sur le territoire, empêchant toute exploitation agricole et réduisant le peuple à la famine.
Je crois que l'Angola, sincèrement, apparaît aujourd'hui comme l'un des pays les plus touchés par la question des mines. Il y a une espèce de maxime aujourd'hui qui tourne en Angola et qui est dite par les Angolais eux-mêmes, qui disent que chaque Angolais a une mine antipersonnelle marquée à son nom. Ça exprime, on sait qu'il y a 12 millions d'Angolais, ça exprime un peu l'étendue du problème. Mais je crois que plus que le nombre de mines, c'est la surface et la dispersion de ces mines. On est en Angola dans une situation de guérilla assez floue, il y a eu des mouvements de troupes et les mines, il n'y en a pas. Donc on n'est pas capable vraiment de déterminer a priori, pour des raisons militaires, où sont les mines. Et donc le danger est quotidien pour tout le monde. Alors s'il faut des chiffres, je crois que ce qu'on peut dire quand même, c'est que la question des mines et la guerre en général a fait plus de 500 000 victimes sur ces 20 dernières années. Et les gens aujourd'hui parlent de 100 000 personnes mutilées. Mais au-delà de ça, encore une fois, je crois que quand on se promène dans les rues de Luanda, il n'y a pas besoin de chiffres. On s'aperçoit que des mutilés, on les sent parce qu'il y en a partout. Vous ne passez pas un coin de rue à Luanda sans voir quelqu'un sur deux béquilles et une jambe.
Au-delà des hommes que l'on brise, de la terre que l'on piège, il y a les atteintes de toutes sortes qui épuisent le peuple derrière la façade de la richesse des matières premières. Christine Messian.
On voit bien en quoi la situation des populations est absolument terrible. Bon, je peux prendre un exemple. L'an dernier, le gouvernement a décidé, avec un mépris souverain, de faire une augmentation de 1600% du prix de l'essence. Alors le prix de l'essence était très faible, mais maintenant il est plus élevé que dans des pays qui ne produisent pas de pétrole. Et cette augmentation du prix de l'essence, elle peut très bien être absorbée par toute une série de nouveaux riches et de nomenclaturistes qui ont absolument les moyens. Mais avec l'essence a été augmenté aussi le prix de la bouteille de gaz qui est ce qu'on a pour faire la cuisine, le prix du gaz d'éclairage qui est ce qu'on a pour s'éclairer puisque l'électricité a été laissée à volo aussi. Et donc on a aussi une dégradation de l'environnement autour des villes, autour des camps de réfugiés, parce que le charbon de bois est exploité à une cadence absolue et donc on a une dégradation des sols autour de tous ces établissements humains qui est quelque chose de catastrophique. Le gouvernement se présente comme un état de droit. Ce gouvernement a énormément d'argent. Il l'emploie à autre chose qu'à permettre à son peuple de survivre. Mais par exemple, il est extrêmement préoccupé de l'environnement. Le président de la République a fait une fondation avec l'argent des multinationales pétrolières qui se soucie, par exemple, extrêmement de l'environnement. Il y a maintenant, avec l'argent qui vient des internationaux, puisque les internationaux se soucient aussi de l'environnement, on a ce scandale qui est donc cette dévastation de ce pays et par ailleurs cette amélioration de l'aspect de Luanda où à côté des poubelles, il y a des jardins qui sont créés, il y a des jeunesses qui s'activent pour que ces jardins donnent un air plus riant à cette belle capitale. Donc on ne peut pas être contre le fait que des jardins soient créés dans la capitale, mais on voit bien en quoi c'est une façade qui est donnée et qui recouvre une réalité qui est absolument dramatique.
Pour conclure ce regard sur l'environnement angolais, réécoutons notre confrère Stephen Smith du journal Le Monde.
Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'un pays très grand disparaît, avec 12 millions d'habitants, disparaît parce qu'on ne voit plus que la capitale et encore, et sinon des cargaisons de pétrole, donc des pétroliers qui flottent. Il n'y a rien dans les journaux sur l'Angola. Et ce qui était frappant à la fin de l'année dernière, alors que la guerre avait repris à grande échelle dans le pays, j'ai lu dans un grand quotidien, ici sur la place parisienne, une brève, pour la première fois quelque chose de l'Angola, et elle portait sur le fait qu'une femme aurait été violée dans la capitale. Et là, je me suis rendu compte que ce fait divers, qui est certes à son importance, était absolument absurde compte tenu du fait que depuis des mois, je n'avais rien lu sur la guerre, sur la souffrance de la population. On voit donc qu'on a réussi à nous berner, à nous faire croire que c'est un pays normal où les choses continuent puisque le pétrole coule, et en réalité où il y a même des faits divers effroyables, et on oublie de dire, y compris en rapportant ces faits divers, qu'il y a un contexte de guerre et de souffrance.
Ainsi se termine ce Fréquence Terre d'Arnaud Jouve sur une réalisation de Marc Delouvrier et un mixage de Joël Pochon. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage produit en février 2001. Après 25 ans de guerre civile, l'Angola entre, en 2002, dans une nouvelle phase de son histoire. La fin du conflit permet le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et favorise la reconstruction des infrastructures détruites. La stabilité retrouvée crée un climat propice à la relance économique et à l'intégration de l'Angola dans les échanges internationaux, notamment grâce à l'exportation du pétrole et des diamants. Pourtant, cette richesse est inégalement répartie et profite surtout à l'élite politique et économique du pays. La majorité de la population continue de vivre dans la pauvreté. Le bilan est contrasté donc. L'enjeu pour l'Angola reste de transformer la richesse issue de ses ressources naturelles en un développement plus équitable, plus durable pour l'ensemble de sa population. Un défi difficile, on s'en doute. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site alternantefm.fr. La chanson du jour est à mettre au crédit d'un chanteur voyageur, Bernard Lavillier, qui a écrit un texte qui traite justement de la problématique évoquée aujourd'hui dans notre archive. Ça ne pouvait pas mieux tomber. La chanson s'appelle Angola.
Je connais qu'un seul endroit.
À la semaine prochaine.
Mais c'est pas fréquentable. On joue ce blues là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable. C'est profond, plus fort que toi, il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de loin. C'est un chant de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer. Au plus vite, ne dis rien. Cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais toi, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama, vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire. Il nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour.